Charles. Deux hommes en onde.
FM 93.
Mais je me souviens pas comment il fallait que je commence, Jeff. Jeff me pointe, puis je me souviens pas qu'est-ce qu'il fallait que je dise. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise?
On a une collègue, Pascal,
ben oui,
qui est allé jouer dans le bois, mais de façon intense.
Et pourquoi c'est moi qu'il fallait qu'elle présente, donc?
Non, mais je voulais juste vous réunir.
Hey, je retrouve mon bon collègue Paul Raphaël, là.
Moi, je voulais juste pas être la troisième roue du carrosse dans ce segment-là. Je voulais juste vous permettre une réunion, mais c'est correct, je vais m'en occuper.
Que Québec se lève est en train de tenter un putsch sur l'émission du midi.
Pascal, t'es allé passer du temps avec des survivalistes.
Ah ouais, le genre de personnes qu'au départ, on se demande s'ils sont fous ou s'ils sont juste avant-gardistes.
Est-ce que c'est des complotistes?
Non, j'ai pas senti
ça. C'est des gens normaux, là.
Ben, c'est parce que j'ai pas été voir non plus celui qui est caché dans le nord avec deux fusils sur le côté en attendant les zombies.
Ouais, c'est ça.
J'ai pas visé cette table-là, bien que j'ai pas choisi non plus. Je suis tombée sur Internet survivalisme et je suis tombée sur un blog qui s'appelle Québec Preppers. Et bon, finalement, je me suis rendu compte que c'est des gens qui se préparent à tout, autant des inondations qu'une attaque nucléaire.
Mais est-ce qu'ils croient à la fin du monde?
À la fin du monde, je peux pas dire qu'ils s'attendent à ce qu'on explose tous, mais oui, ils s'attendent à ce qu'à un moment donné, ça
catastrophe.
Peut être entre la Corée et le Canada, par exemple.
OK.
Ouais,
c'est ça, c'est ce genre de préparation-là.
Ben, vous allez voir au cours du reportage qu'il y en a un qui se prépare encore plus à ça, notamment avec un debunker.
Okay. Un bunker?
Mm-hmm. Okay. Mais là, je vous mets en contexte. Okay? Moi, j'embarque avec 5 inconnus dans une histoire comme on s'en va passer 24 heures en forêt quand
ça
je
me semble
suis
tout à fait légitime.
As-tu vu le film Projet Blair?
Une chance que non. Il paraît que ça m'aurait probablement fait changer d'avis.
Oui.
Là, j'embarque avec ces gars-là en Mauricie, directement au parc récréo-forestier de Saint-Mathieu du Parc. Et je décide de me lancer dans l'inconnu. Bon, premièrement, à la première rencontre, je me sens un peu comme dans Indiana Jones ou un film d'aventure. Là, on parcourt 25 km en forêt, en montagne, on grimpe, on a chaud. On a une mince rencontre au départ. Et tout ce que j'apprends d'eux, c'est qu'ils se préparent aussi physiquement avec du Krav Maga.
Ben, en fait, en hébreu, Krav Maga, ça veut dire combat corps à corps, combat rapproché.
OK.
Puis c'est des techniques de combat qui émanent des forces armées israéliennes qui ont été adaptées pour les civils au niveau de la self-défense.
Puis nous, on s'en va dans le bois avec vous, là.
Ouais. Ça ressemble à ça.
OK.
Ben, en tout cas, si tu peux attaquer, t'es en sécurité.
Tant que c'est pas vous qui m'attaquez.
Non, vraiment pas. C'est pas le style de la maison, ça peut te rassurer.
Eux autres, ils se préparent à aller se perdre dans le bois en se battant.
Mais c'est parce qu'il faut autant préparer son mental que son physique. Je te donne un exemple. Toi, tu peux être la personne la plus en forme, être capable de, si quelqu'un t'attaque, de toi aussi contre-attaquer. Mais si ton mental n'est pas fort, t'as pas fait de simulation, tu t'es pas retrouvé dans des conditions comme celles que je me suis retrouvée,
oui,
ben probablement que tu craques et que t'es le premier à mourir.
Okay. Puis eux autres sont prêts pour du combat urbain, du combat dans le bois,
oh,
sont prêts,
oui,
à tous les environnements.
Ben,
là, donc.
Oui, puis ça va plus loin quand on parle de ce sport-là. Tu sais, je dis OK, parfait, mais vous allez être là pour défendre votre femme, vous, vos enfants. Il dit oui. Puis même, faut que tu te poses des questions tout de suite. Si toi, tu te retrouves dans une situation chaotique du jour au lendemain, t'es une femme, et là, t'as besoin de ta canne de haricots pour tes enfants, mm-hmm, ben, comment tu vas faire pour marchander? Est-ce que tu vas vendre ton corps? Hey, ça va jusque-là.
Il se pose ces questions-là.
Il se pose ces questions. Ben là,
genre le gars et sa blonde qui s'en vont se préparer. Et là, ils font leur petit combat de rue pour se préparer.
Ça.
Après ça, bon, chérie, c'est quoi nos limites? On a besoin d'une canne de haricots, sinon on meurt. Vends-tu ton corps? Oui, non. Qu'est-ce que tu fais? Oui, non.
Ouais.
Il se pose vraiment ces questions-là?
Écoute, on parlait d'enfants. J'en ai pas encore, mais j'essayais de me transposer puis me dire, ben, probablement que pour sauver mes enfants, il n'y aurait pas grand-chose que je serais pas prête à faire. Et là, il m'arrête. Il dit, tu serais la plus vulnérable de la communauté, là. Le mot va se passer, que toi, contre une canne de denrées, ça va jusque-là.
Toi, tu vends ton corps pour une canne de soupe habitant. Ben moi, en tout cas, il n'y a pas grand-chose que je ne ferais pas pour une canne de soupe habitant.
Non, ben non, c'est pas au mais... hein.
Mais moi, je ne paierais pas plus cher qu'une canne de thon pour du Paul Raphaël.
Ah, ouais, du délicieux thon. Parfait, ça. Une grosse pièce et demie.
On parle de survivalisme. Alors, qui va survivre dans ces conditions-là? Certainement pas Steve qui nous accompagnait. Steve a fait une mauvaise sélection dans ce qu'il apportait dans son sac.
Okay.
Tellement qu'il y avait 70 livres sur le dos pendant 25 km, je vous rappelle, en montagne.
Et
à un moment donné, ça a donné cette situation-là.
Fait que là, Steve, admettons que ce soit un scénario avec... au lieu que c'est une cyberattaque, ça serait... un nuage toxique. Que là, il faut marcher avec le masque.
Ouais.
Là, on t'aurait perdu. Hein.
Pourquoi?
Ben, dans le masque, on respire mal en estif.
Ah, j'imagine.
Puis... Steve serait mort.
Non, mais on parlait avec Myriam tout à l'heure de la sélection naturelle. Tu sais, c'est... Ben non, mais il n'y aura pas le choix. Hein. matin, on a dit que s'il se passait quelque chose de grave.
C'est tellement rude.
Tu sais, les malades, les personnes âgées, les.
Moi, les. Ouais.
Mais. T'as pas le temps de dire à papy, mamie, on va les emmener. Hein, oui, on va les emmener un bout de temps, mais après.
Non,
faire un infarctus ou.
On a tué Steve. Steve est mort dans la simulation.
Reste en paix, Steve.
OK, fait que vous autres, vous êtes partis marcher, si je comprends bien, 25 km en montagne. Et pendant que vous marchiez, vous décidiez, OK, voici un scénario, qui c'est qui vit, qui c'est qui meurt.
Ben oui, mais Steve...
Là, Steve est mort. Toi, t'as-tu survécu tout le long?
Moi, j'ai survécu. Un grand G.I. Joe.
T'as survécu du début jusqu'à la fin, mais Steve, le prepper, lui, il est mort.
Steve a même mal planifié son sac.
Puis toi, qui connais rien là-dedans, t'avais tout fait bien du premier coup.
C'est sûr que j'ai lésiné la chose parce que la seule chose que j'ai apportée, c'est un camel pack. C'est un petit sac avec une poche d'eau à l'intérieur. J'ai caché 3-4 paires de bas dans mon manteau, puis je me suis dit, je suis avec des experts. S'il
des
arrive
paires
quelque chose,
de bas.
Ils vont.
Fait que t'avais pas de canif,
t'avais non,
ça.
Non.
Un couteau pour se défendre,
des
non, mais.
Pas besoin de ça, c'est surévalué.
Mais les pieds au sec, par exemple.
Au chaud et non au sec. Mais à un moment donné, ils sortent toutes leurs armes, couteaux, haches. Et là, je dis, wow, là, ça se passera pas comme ça.
Check ma machette.
Vous ne sortirez pas vos armes si moi, j'en ai pas une. Donc, soit vous me fournissez en armes ou soit ça se termine maintenant. Voyons, je les connais pas.
Mais c'est pour ça qu'ils t'ont parlé de troc avant. T'avais besoin d'une arme.
Non, c'est des gens extraordinaires. Puis c'est juste parce qu'on s'est mis à couper du bois pour faire un feu. On s'est mis à mettre une planche de bois avec des branchailles de cèdre parce que c'est là-dessus que j'allais dormir.
Vous étiez dans quelle région, juste pour
en Mauricie.
En Mauricie, OK.
Oui, exactement. Okay. Puis là, on établit le campement. On est toujours prêt à partir. Faut savoir que aussitôt qu'on sort quelque chose du sac, on le remet dans le sac. Parce que ça, c'est arrivé. On est parti à 4 au départ. Et à un moment donné, petit pipi dans le bois, j'entends juste celui qui l'organise, Mathieu Montaroux, arriver en courant. Il hurle. « On rempaque tout, pognez vos sacs, on s'en va. » Je suis là, hey, en panique, je sais pas ce qu'il veut. Il dit un autre survivaliste. Moi, je l'imagine juste l'autre survivaliste arriver avec sa tronçonneuse en arrière, puis on est tous morts.
Peut-être vous passez un vrai
l'autre. Ben, c'est terminé. Mais non, il était heureux parce qu'on avait trouvé quelqu'un d'autre qui faisait la même chose que nous, une autre simulation dans le bois.
Il y a donc assez de personnes qui font du survivalisme pour que vous vous croisiez la nuit dans le bois en Mauricie.
C'est soit la chance inouïe qu'on a
mais
eu.
Mais pourquoi tu remballes quand il y a un autre gars qui arrive? C'est une menace? C'est pas une menace?
On le connaissait pas, on savait pas. Mais
donc vous vous êtes sauvé ou bien quoi?
Ben non, finalement, d'aller au campement avec lui. On a continué d'ériger le campement à côté de lui pour finalement passer la nuit avec lui aussi.
Martin Péridulot, t'es pas avec vous?
Non, une chance.
C'est un auditeur qui nous le demande.
Une chance.
Parfait.
Ça aurait été la personne la plus lourde de l'équipe, mais bon, c'est pas grave. Côté alimentation, qu'est-ce qu'on mange aussi? Parce que eux, ils font leur beef jerky par eux-mêmes, des fruits séchés. Ils s'arrangent toujours pour avoir du stock qui ne sent pas, pour pas attirer les animaux, mm-hmm. puis également qui se conserve bien.
Et la première chose. La canne de thon dont on parlait, c'est mal parti, là.
C'est un peu mal parti.
Un yogi à trouver, là.
Ouais.
Mais par contre, on peut t'offrir d'autres choses.
Dans le fond, c'est des verres de farine. Ça.
Il y a
c'est de l'élevage, puis ça se vend comme ça. Je t'aurais apporté des biscuits, t'aurais pas vu la différence.
Ben non, c'est goûte sûr, hein? Là, c'est blanc avec des pâtes.
Surprenant.
OK.
C'est surprenant.
OK, ça goûte la céréale.
T'en veux-tu encore?
Ça goûte ce que ça mange, hein?
Ben, j'ai d'autres choses à manger.
Ça va
OK. Merci pour cette délicieuse trouvaille.
On en a
un,
moi aussi, j'en ai.
Ah, cool.
OK, ça fait que t'as mangé un verre avec des pâtes.
Mm.
Avoue que t'avais un petit yogourt avec des fruits et du granola dedans, dans ton sac.
J'avais une petite barre tendre cachée dans ma paire de bas. Au cas où, justement.
Mais c'est quoi ce verre-là?
C'est un petit verre de farine. Écoute, le marché en ce moment de la bibite, là, de l'insecte, est extrêmement... Les gens, là, ils vont à la conquête du futur, espèce qui va nous sauver.
Ouais.
Parce que c'est super léger, ça coûte rien à produire et c'est très protéiné. Vous le voyez, il y a des farines, il y a des biscuits, c'est pas une blague, il y a vraiment des biscuits, des petits verres blancs. Puis il y a des entreprises ici au Québec qui commencent à faire leur place dans le marché. Ça va être extrêmement lucratif à travers les prochaines années. Autre chose quand même qui ne sera pas nécessairement lucrative, mais peut-être que ça va sauver la vie de Raccoon Man, mm-hmm. un de ceux qui nous accompagnaient.
Raccoon Man,
c'est ça. Oui, c'était son nom. Lui, il va se construire un bunker. Mais pas un petit bunker cheapette, là. Pas une chaîne en bois. Ouais. Un vrai bunker.
Non, c'est des vraies structures d'acier, là.
Okay.
C'est bon. Avec des bords de renfort, puis tout, là.
Puis la porte.
C'est une porte de sous-marin.
Que tu dévisses?
Ouais. 400$ la porte.
Ouais, c'est pas si pire.
C'est pas si pire. Abordable. Mais tu sais, c'est tout des retails d'anciens sous-marins, là. Fait qu'ils sont pas neufs des fois. Mais...
Ton bunker, tu l'as fait bâtir, tout est beau, puis finalement, ben, il y avait une micro-fissure dans le béton, puis les radiations y rentrent. Bonjour à la préparation, ça c'est. Ouh, c'est ça. T'arrives au bout de ton stock de 30 jours, puis tout est encore contaminé à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes cloîtré là comme une marmotte ou. C'est un. Il y a des trucs dans la vie auxquels tu peux pas faire face, ou même. Il y a des gens qui décident de le prendre d'assaut, puis qui te foutent à la porte. Tu peux arriver 25 000 scénarios.
Vous voyez qu'ils sont quand même intelligents, là. Ils se remettent en doute.
Là, ils essayent tout. Ouais.
Mais ils se remettent en doute aussi en se disant on peut pas être prêt à toutes les situations qui pourraient nous arriver. Mm-hmm. Et surtout, ce qu'ils répètent et répètent, soyez donc des citoyens préparés. Ayez donc au minimum, si vous avez des inondations, quoi que ce soit, un feu, un petit sac à l'entrée là, de votre appartement, de votre maison, où il y a photocopie de vos cartes d'assurance maladie, où il y a peut-être 2-3 bartendes, une coupe de jus, puis les choses importantes à avoir en sortant. Les gens là où la digue s'est fracturée en 15 minutes dans une municipalité au Québec, ouais, ça aurait pu aider. Oui, vous pouvez nous prendre pour des gens intenses, mais en même temps, revenez à la base. Nos grands-parents le faisaient, ils étaient prêts pour l'hiver. Est-ce que nous, on est prêts à ça? Fait qu'ils sont intelligents. Par contre, ils ont une critique, et je termine là-dessus, envers leurs parents, à eux et une certaine génération, soit les baby boomers.
Ils ne voyaient pas de fin à notre monde que nous, notre génération, on dirait qu'on évolue avec l'idée continuelle que tout peut s'effondrer, tu sais, qu'il va falloir repartir d'une base ou que... Le monde qu'on connaît actuellement va complètement changer. Là. On prend comme rien pour acquis comparativement à la génération des boomers, si on veut. Là.
Ouais, tu parles des boomers, toi, là, Guillaume?
Ouais, ben ça, je disais.
Mais là, on en parle parce qu'ils vont tous en retraite et que ça, il y a de la perte d'emploi partout. Mais...
Le monde dans lequel on vit, il est comme, le système a été établi puis ils pensent que ça va durer tout le temps puis qu'il n'y aura pas de problème. Tandis que nous, notre génération, on est comme vraiment conscient qu'à un moment donné, tout peut s'effondrer puis on réfléchit plus en conséquence que le monde va changer. Je crois aussi que cette génération-là a été vraiment portée par le rêve américain. Hein?
Ouais, exactement.
Ils ne remettaient pas en cause le système économique, ils ne remettaient pas en cause leur mode de vie. La consommation n'était pas un problème, il y avait des ressources à l'infini parce qu'à leur époque, ça paraissait infini. Tandis que nous, je veux dire, le pétrole, c'est une évidence que ça ne durera pas 200 ans. Si on parle de l'utilisation des terres rares, on est conscient que c'est une ressource limitée. On est conscient des problèmes aussi du plastique des océans. T'sais. On est conscient que le mode de production et de consommation actuel va éteindre notre société si on prend pas d'action.
Mais peut-être qu'on fait moins l'autruche qu'avant et qu'on ose plus dire les choses.
Ouais.
Peut-être.
En même temps, quand on n'a plus d'Internet, on panique. Ma prise d'ordi a toasté hier. Là. Fait que je suis plus capable de changer mon ordi. Là.
Hier, c'est la cata.
La catastrophe, j'envoie des messages à tout le monde. Je serais pas capable de travailler, aidez-moi. C'est vrai, mais grain de sel quand même. Nuance quand même à ce que les gars disent.
Qui t'a sauvé?